Bonsoir les auditeurs, amoureux des livres et des apéros. La famille nous sauvera tous. Le 16 octobre, la manif pour tous martelait « En 2017, je vote pour la famille ». Le pape est bien d'accord, il avait déclaré que « chaque menace contre la famille est une menace contre la société ». Jean-Frédéric Poisson applaudit, lui qui voudrait que le ministère de la famille dépende directement du Premier ministre. Bref, la famille serait le socle de l'humanité, son refuge et son avenir. Oh, « Mais vous voulez m'éliminer ?» s'écrie la littérature. « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est tradie, cette Dupont-Mono !» La famille dite classique n'a jamais inspiré le moindre romancier. Je vous rappelle qu'Antigone est mise à mort par son oncle. Phèdre voulait coucher avec son beau-fils et Clytemnestre poignarde son mari. Les tragédies se seraient bien marrées à la manif pour tous. Et puis, quelle meilleure école qu'une famille disloquée. Regardez André Gide, homosexuel qui épousa sa cousine, ou James Ellroy qui retrouva sa mère prostituée, poignardée au fond d'un talus. Super, la famille refuge. Plus le modèle familial est chahuté, mieux la littérature se porte. Et ce n'est pas Véronique Ovaldé, avec son roman « Soyez imprudents les enfants » paru chez Flammarion, qui dira le contraire. Athanasia naît en 1970 au Pays Basque. De 0 à 13 ans, elle saigne du nez tous les jours. Son père a grandi avec son cousin, dont il était secrètement amoureux, mais ceci, je cite, il va sans dire, ne fait pas partie de la légende familiale. Le soir, Athanasia parle à ses parents biologiques, cachés sous son lit, car c'est une enfant adoptée. Un jour, elle tombe en arrêt devant un tableau au musée, elle découvre que l'auteur est lié de très près à sa famille et elle mène l'enquête. Et Véronique Ovaldé, un peu à la Garcia Marquez, nous fait remonter les époques et les destins. La famille dans ce roman, c'est un univers de chausse-trappe, de double fond, très loin d'eux, un papa, une maman, quel bonheur, si cher aux années 50. Alors, le temps d'un apéro familial, il va sans dire, nous partageons un amuse-bouche avec Véronique Ovaldé. Elle nous livrera ses secrets de gestation littéraire. Ce sera le procès-verbal, exhibera sa généalogie culturelle un peu honteuse avec les inavouables, avant que notre libraire ne vienne bénir notre famille si merveilleusement décomposée.
France Inter. L'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Véronique Ovaldé.
Bonsoir Clara.
À partir d'un tableau, Athanasia remonte le fil généalogique. Alors Athanasia, la petite héroïne, au début petite en tout cas, dit, je cite, « J'étais le genre de gamine qui pense que la place des voyelles dans l'alphabet est ordonnée selon une logique souterraine. Parce que tout doit avoir un sens, vous n'allez pas me faire croire au hasard. » Ce genre de gamine, que j'adore, sur de tempérament que j'adore, mais est-ce que vous diriez qu'elle est décalée, inadaptée?
J'en sais rien, en tout cas, ce truc-là des voyelles, c'était un truc à moi quand j'étais gamine. J'ai posé la question à mon instit quand j'étais au CP et elle m'a regardée avec des yeux ronds du genre « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Donc voilà, j'étais persuadée en effet que tout devait avoir un sens. Et donc être décalée, oui, sans doute, je pense que c'est quelqu'un de décalé, quelqu'un qui cherche ouais, cette idée encore de trouver un sens aux choses en permanence. Rien ne doit être le fruit du hasard. Donc, à partir de là, votre vision du monde est quand même très singulière.
Alors, en tout cas, elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle s'adapte. Parce que Athanasia, elle vient d'un milieu qui est un petit peu pas facile. Elle aurait pu dire ça.
La famille, c'est la réunion forcée sous le même toit de plusieurs personnes qui ne peuvent pas se sentir. C'est vous qui avez écrit ça, François Lepic, c'est vous?
Comme dans Poil de carotte, un film de Julien Duvivier, donc adapté de Jules Renard, elle aurait pu dire ça à Athanasia. Eh ben non, au lieu de ça, elle dit « je vais partir cerner ce qui cloche ». Donc il y a une volonté de réparation. Là, je ne me trompe pas.
Oui, je pense en effet il y a une volonté de réparation, mais aussi parce que ça cloche sans doute, mais il y a des choses assez douces et assez belles dans cette famille. Et donc, elle a quand même un père et une mère aimants, enfin, qui sont un peu à l'ouest, on va dire. Mais quand même, ils sont plutôt aimants et elle a une grand-mère merveilleuse. Voilà. Donc, il y a quand même des gens flambeaux, en fait, dans cette famille.
Oui, et la grand-mère particulièrement, parce qu'en fait, c'est elle qui a les mots et c'est elle qui a les clés. Et est-ce que c'est elle, dans cette grande famille mouvante, qui stabilise le plus? Il y a souvent le rôle de l'ancêtre de ce côté-là.
Oui, je pense qu'en effet, celle qui stabilise, pour ça je dis qu'elle a un rôle aussi de flambeau. C'est quand même quelqu'un qui éclaire, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, en effet. C'est quelqu'un qui, du coup, dans son immuabilité, permet à cette petite fille un peu particulière de trouver en fait un socle, en effet, pour pouvoir s'affranchir et puis partir à la découverte de tous les mystères qui l'intéressent.
Et alors, Athanasia l'appelle Amat Amachi, ça c'est du basque.
Ouais.
Et ça veut dire grand-mère.
Ça veut dire grand-mère.
Alors, à un moment, elle se fait renverser par une voiture, cette grand-mère. Athanasia s'accroupit sur le trottoir. Et, je vous cite, « J'étais submergée par un flot de larmes à cause de cette évidence. Nous recevons tant de nos mères et de nos grand-mères et nous leur donnons si peu. » Fermez les guillemets.
J'en suis convaincue, en fait, qu'elle nous donne énormément. Enfin, moi, j'ai pas eu de grand-mère, j'en ai jamais eu, mais j'ai une mère en l'occurrence, et elle m'a donné énormément. Je pense que beaucoup de mères donnent énormément. Moi, je donne beaucoup aussi en tant que mère à mes enfants, et je me dis, de toute façon, ça fait partie du jeu en fait. On donne quand on est mère, et on ne reçoit pas, et il ne faut pas s'attendre à recevoir. Et ce déséquilibre fait partie finalement de la relation entre les mères et les enfants.
Alors elle s'en sert plutôt bien, on disait, Athanasia, donc c'était pas gagné, parce que c'est quand même beaucoup de souffrance, et on a l'impression, au fur et à mesure du livre, que ça la nourrit. Elle va faire de l'or avec la boue, elle va faire en fait un peu comme les poètes, un peu comme François Truffaut.
Pour moi, l'enfance, c'est une accumulation de mauvais souvenirs, je veux dire que lorsque je suis déprimé, je n'ai qu'à penser qu'au fond, je suis majeur, je fais ce que je veux, pour être aussitôt regaillardi, parce que l'enfance me semble un âge pénible, l'âge où il est interdit de se tromper, par exemple, où l'erreur s'appelle vraiment un délit, on casse une assiette en se trompant, eh bien, en réalité, c'est une faute.
Cette jeunesse avait été très dure, elle l'avait conditionnée. Je pense que je comprenais mal certaines choses de sa vie ou de ses positions, parce que justement, je ne connaissais pas cette jeunesse. Même pour moi, les 400 coups ont été quelque chose de très fort, parce que cette espèce d'enchaînement terrible qui l'a amené à Villejuif, au centre des mineurs délinquants, ça c'est la continuité du film qui me l'a montré.
François Truffaut, suivi de sa femme, Madeleine Morgenstern. Voilà, alors ça vous parle,
oui,
Véronique Ovalde?
Oui, ça me parle, ça, en fait. Très personnellement, beaucoup plus, en fait, que pour mon personnage Athanasia. Mais moi, c'est vrai. L'autre fois, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais vous savez, c'est des petites questions qu'on vous pose dans des micro-interviews, on vous dit, vous ne seriez jamais devenu écrivain si... Et la réponse qui est venue tout de suite, c'est si mon enfance avait été moins moche. Et donc, ça a été quelque chose... ce qui était évident au moment où je l'ai dit, et de toute façon, qui est évident pour moi, c'est qu'en fait, l'enfance est quand même un endroit, un territoire que j'ai absolument voulu quitter. Et donc, c'est ce désir d'affranchissement, ce désir de partir, ce désir de rupture, il est tellement fondateur de tout ce que je suis maintenant.
Oui, parce que ça nourrit ensuite, du coup. Est-ce que ça suppose qu'on remercie finalement cette famille décousue? Je ne sais pas si ça avait lien avec une famille décousue, cette enfance moche. Mais est-ce que c'est l'idée qu'il faut s'en affranchir pour forger son identité? Mais il faut quand même s'en affranchir, et c'est là où ça vous nourrit finalement.
Bah oui, je pense que moi, ça m'a profondément nourri, c'est évident. En fait, c'est ça qui fait que je suis cette personne que je suis actuellement. Et que, comme dit Truffaut, en fait, il suffit de penser à qu'on est majeur maintenant et qu'on n'est plus là-bas pour que ça aille mieux. Donc, je pense qu'en effet, ça nourrit. Du coup, ça nourrit énormément, en fait. Donc, parfois, je me dis peut-être qu'il aurait fallu que je donne à mes enfants une atroce enfance. Comme ça, ils étaient nourris de quelque chose. On en parle parfois
mais
avec eux et on rigole avec ça.
Peut-être pas si on en croit Marguerite Duras.
Quelle relation dans cette famille? Parce que ce sont des relations d'amour et de haine. C'est tout mélangé.
Comme dans toutes les familles, non?
Je pense qu'il y a des familles qui sont peut-être moins singulières que la vôtre.
Écoutez, moi, quand je vois des enfants tout à fait heureux, détendus, polis, charmants, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été contourné.
C'est pas magnifique. Quand je vois des enfants polis, heureux, je me dis que quelque chose a été contourné. Donc, en fait, en creux, elle demande, Marguerite Duras, est-ce que, au fond, la famille dite normale, elle n'est pas, de toute façon, bourrée de névrose?
Ouais, oui, mais sans doute. De toute façon, je pense que c'est un bon lieu de névrose. C'est aussi pour ça que c'est quand même quelque chose qui alimente tellement la littérature, le cinéma, enfin l'art en général. La famille, c'est parfait. C'est pour ça que je parle aussi de l'enfance ou de la famille comme un territoire. C'est quand même un lieu, un endroit avec des gens qui la composent, qui se sont pas toujours bien choisis. De toute façon, en tout cas, vous choisissez jamais vos parents et vous choisissez rarement les enfants que vous aurez. Mais en tout cas, vous pouvez faire quelque chose. J'imagine que vous avez un petit peu quand même d'action sur la question. Et donc, c'est le lieu parfait pour exprimer ces névroses, évidemment.
Alors dans votre livre « Soyez imprudents les enfants », Véronique Ovalde, il y a un magnifique portrait de la mère d'Athanasia. Elle est très dépressive, elle est aussi très touchante. Je cite « Athanasia ne voulait pas être celle qui demande pardon quand on lui marche sur les pieds. Athanasia ne voulait pas devenir l'une de ces femmes qui pleurent de rage et d'impuissance en faisant la vaisselle et en y trouvant une forme de réconfort. » Quel genre de réconfort ?
Bah, je pense, enfin, il me semble encore beaucoup d'ailleurs de femmes, et je pense pendant pas mal de siècles, il y a eu des femmes qui étaient une espèce d'ivresse de l'insatisfaction. Les femmes qui pleurent de rage discrètement parce qu'on leur impose quelque chose, parce qu'elles sont dominées, parce que la société elle faisait qu'elles étaient dominées, qu'elles le sont toujours quand même en grande partie. Donc c'est quelque chose qui me semble encore tout à fait pertinent. Et le fait, par exemple, qu'elle ne veut pas être une de ces femmes qui s'excuse quand on lui marche sur les pieds. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours frappé, que les femmes s'excusent tout le temps. L'autre fois, je vois une femme dans le métro, je lui fais remarquer que son sac était ouvert, donc simplement pour lui rendre service, pour pas qu'elle se fasse voler quoi que ce soit. Elle se retourne vers moi et me dit « Oh, pardon !» Et je me dis, c'est génial. Au lieu de me dire merci, elle me dit pardon. Et donc, je me dis, c'est fou, en fait, ces réflexes de excusez-moi d'être là, en fait.
Alors, sa mère, elle pleure. Athanasia a la quantité de questions à lui poser. Et en fait, elle la laisse pleurer. C'est-à-dire qu'elle va respecter le besoin de sa mère. Et elle dit, pourquoi aurait-elle donc dû se remettre obligatoirement de la mort de mon père? Ce que vous dites à travers ce personnage de la mère, c'est qu'on n'est pas obligé, finalement, de faire son deuil, comme on dit tout le temps.
Oui, non, ça, j'en suis pas du tout convaincue qu'il faille absolument faire son deuil. Mais du coup, c'est très mal perçu parce qu'évidemment, on n'accepte plus dans la société dans laquelle on est, d'ailleurs, que le deuil puisse être porté pendant le reste de notre vie si on a envie de le faire. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de s'en remettre? Et donc là, la mère d'Athanasia, en fait, c'est comme une friandise, en fait. C'est presque comme ça fait partie, en fait, d'une forme de satisfaction, de bonheur, en fait, de se souvenir de cet homme qu'elle a tellement aimé. Et pourquoi, du coup, se remettre à vivre autre chose, autrement.
Bon, on est loin des familles idéales. En même temps, c'est très bien et c'est tant mieux. On est loin des familles heureuses. Dieu merci, finalement, comme dirait Ludovine de la Rochère, nous avons les négresses vertes. Véronique Ovalde est avec nous jusqu'à 20h pour son roman « Soyez imprudents les enfants », l'histoire d'une famille recomposée au sens très large grâce à Athanasia, 13 ans au début du livre, qui recoue le tissu familial. L'histoire ne se déroule pas n'importe où.
Tout le village est en fête et tout le monde est poète. Chacun ce soir ne pense qu'à l'amour, la montagne flirte avec la douleur. Pendant nos fanéros, que rive les bravos, que répète l'écho de sa
rivière. Non, non, excusez-moi, je vous arrête encore une fois. Vous dites répète comme ça, je ne sais pas ce que répète. Non, non, c'est répète, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est plus comprenable, hein, voyez-vous.
Chanson plus bifluorée, oui, bon, un petit amuse-bouche sonore, quoi. L'action se déroule au Pays Basque, à Uburuk. Exactement, ville qui n'existe pas, non. Véronique Ewaldé.
Je vous confirme.
Alors, vous dites qu'en 1940, je cite, « Uburuk était un avant-poste, une ville modèle, un peu comme une villa témoin qui est là pour vous donner la soif et l'avant-goût d'une vie idéale. » Pourquoi ce lieu et cette période-là ?
Bah, je crois que ça m'intéresse beaucoup, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là en Espagne. Ça m'intéresse sans doute d'un point de vue personnel, parce que ma famille vient d'Espagne, du Pays Basque espagnol, mais aussi, ce sont des moments qui sont évidemment passionnant. C'est-à-dire comment, en fait, on bascule? Comment, en fait, un pays comme celui-là, qui est juste à côté de chez nous, en fait, comment il a basculé? Comment on en arrive à accepter de vénérer un chef comme ça? C'est quelque chose comme, qui revient très souvent, d'ailleurs, dans mes textes, dans celui-là particulièrement, c'est le désir de vénération. Pourquoi est-ce qu'on accepte de servir quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on accepte? Pourquoi la servitude volontaire? Pourquoi?
Alors, vous avez choisi la logique de la, un peu de la fresque. Ça vous fait un point commun avec quelqu'un?
Ahora que los ladros prosperan, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan.
Voilà, je comprends rien, mais je pourrais l'écouter des heures. C'est la voix de Gabriel García Márquez. Je ne comprends pas un traître mot. Mais est-ce que c'est un auteur que vous aviez un petit peu en tête au moment d'écrire? Parce qu'il y a un peu de ça.
Alors, pas du tout, en fait, quand j'ai écrit ce livre.
À bientôt.
Non, je vous en prie. Non, mais en fait, ça a été... Pas particulièrement ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, García Márquez, c'est un auteur que j'ai lu énormément quand j'étais très jeune. C'est quelqu'un qui croyait à la fiction reine, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, cette histoire de fiction reine. Je suis convaincue que je comprendrai mieux le monde et qu'on comprendra mieux le monde grâce à la littérature, grâce à la fiction. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une confiance absolue chez García Márquez dans ses fresques, son onirisme, sa magie, ses pas de côté permanents. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en effet. Donc, je pense qu'il est là, mais il était là depuis toujours. C'est pas particulièrement ce texte-là.
Une fresque, ça se compose de multi-récits, Véronique Ovalde. Et il y en a un de sous-récits, un peu comme un tiroir secret, parce qu'on le lit vraiment comme ça, votre livre, hein, on ouvre des tiroirs secrets, qui concerne un ancêtre de la famille d'Athanasia, il s'appelle Gabriel. Oui. Il est fils de lingère, et il se lie d'amitié avec un aristocrate qui s'appelle Braza. Ils partent au Congo, nous sommes en 1873, et c'est là, avant de partir, qu'ils reçoivent un conseil qui va donner le titre au livre « Soyez imprudents les garçons ». Soyez en passant, c'est l'anti-principe de précaution d'aujourd'hui. Hein.
Absolument.
C'est l'idée de « allez-y ». Et c'est au Congo que va se révéler la noblesse du duo. Est-ce qu'on peut parler de noblesse de ce duo?
Ouais, c'est assez beau, ça me plaît en fait, cette idée d'un duo noble. En plus, c'est quelque chose d'amusant pour moi, parce que Gabriel Bartolomé, il a un jumeau, Saturnino Bartolomé, qui lui le considère un peu comme le domestique de l'aristocrate. Il considère que Gabriel a décidé d'être le serviteur en fait. Et au fond, c'est pas du tout le cas. Gabriel est celui qui portera la parole de Braza. Enfin, c'est un personnage tout
alors,
fictif.
Alors, juste qu'on
rappelle
Gabriel, juste quelle parole? Une parole extraordinairement progressiste.
C'est une parole
et éclairée.
Progressiste. C'est une parole éclairée. C'est une parole qui d'abord a beaucoup séduit en France et qui après a fini par lui porter préjudice à Braza. C'est une parole qui est « libérons les esclaves » et surtout « ne colonisons pas ». En fait, il faut éduquer, mais pas coloniser, pas détruire. Et donc, cette parole, à l'époque, au début, c'était bien joli, mais après, on a fini par dire, mais vous savez, on disait de lui qu'il voulait apprendre le grec aux indigènes. Donc, tout le monde était parti du principe que quand même, c'était bien gentil tout ça, mais ses grandes idées, son idéalisme, ça ne fonctionnait pas. Donc, il avait été évincé, à un moment donné, du pouvoir Braza. Et c'est quelque chose qui est passionnant, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là au Congo. La vision que lui avait du Congo, ce qui en est resté pour nous. Et donc, avoir comme ça un personnage fictif qui serait le Sancho Panza finalement du magnifique Braza, c'était en effet un très beau duo, un très beau couple en fait.
Et c'est aussi la preuve que la famille peut être aussi un lien d'amitié, ou la solidité d'un lien vaut l'autre.
Ah ben ça j'en suis sûre. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une autre relation de camaraderie dans ce livre entre Athanasia, la jeune fille, et puis à la fin Idalia Stella ou Ribé. Et c'est la camaraderie est quelque chose, c'est vraiment la famille choisie. Donc, celle qui vous est imposée, comme je disais tout à l'heure, en fait, la famille qui vous est imposée parce que c'est le hasard de l'existence qui fait que vous vous retrouvez à tel endroit. En fait, il y a le pendant de ça, c'est la famille que vous choisissez. Et la camaraderie reste quelque chose pour moi de... C'est la micro-collectivité, vous voyez, c'est le micro-collectif. Pour moi, la camaraderie, on peut être camarade donc avec une ou deux personnes. Et ça, on peut créer, recréer, refaire le monde, en fait, avec ces gens-là.
Véronique Ovalde, reste à savoir le comment de votre écriture, vos secrets, que vous allez publiquement révéler, un peu comme un dîner familial qui tourne mal. Et je sais que tous ces halles riment avec procès-verbal. Ah. Votre nom?
Véronique Ovalde.
Alors, votre prénom?
Ah, Véronique.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
assise.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Sur ordinateur.
Le papier, jamais ?
Plus jamais.
Chez vous ou alors au café ?
Chez moi, le plus de silence possible.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez ?
Une fenêtre. Surtout jamais un mur. Je déteste en fait avoir le nez dans le mur et rien à voir derrière moi.
Quand vous écrivez, vous êtes plutôt apprêtée, maquillée, coiffée ou plutôt hirsute, pyjama pilou ?
Hirsute, pyjama pilou, parce que souvent j'écris la nuit et du coup c'est plutôt toute seule dans mon coin avec un énorme plaid sur moi, un énorme gilet et voilà.
Et du coup j'allais vous demander si votre sommeil est serein ou tourmenté en cas d'écriture, mais vous dormez le jour.
Oui, je dors quand je peux en fait. Vous savez, je fais partie de ces gens insomniaques qui, dès qu'ils peuvent choper un quart d'heure de sommeil et qui comptabilisent leur quart d'heure de sommeil. Vous savez, c'est la nuit, vous comptez, vous réveillez, puis vous dites, bon ça va, j'ai dormi une demi-heure, maintenant j'ai dormi un quart d'heure. Donc voilà, donc évidemment, si je peux choper un quart d'heure en journée, je le prends.
Vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant ?
Ni l'un ni l'autre.
À quoi ressemble votre pause ?
Je me fais du thé et puis sinon, si c'est des journées plus longues de travail, je me fais un truc que je fais toujours, qui est je prépare un plat de pâtes avec du parmesan et c'est tout. Et c'est ça, parce que c'est ma pause en fait. Je m'arrête et puis hop, après je reprends 10 minutes après. Donc c'est vrai, c'est pas très long comme pause.
Merci Véronique Valdé, vous êtes libre. Partons ensemble vers Uburuk, au Pays Basque, ville qui n'existe pas. Et comme on n'a pas trouvé de chanson basque dans la playlist de France Inter, on a pris une chanson d'Olivia Ruiz, un peu espagnol, on sait que c'est pas pareil, mais la chanson elle est jolie quand même.
Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur part. Pour mon corps se griffe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atours. Mon corps disparaît, mon amour, je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors, revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors, revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur part. Pour mon corps se griffe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps est atone, mon amour, sans poindre un non-retour. Mon cœur s'éteint, mon âme.
Vous écoutez la Muse-Bouche sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invitée, c'est Véronique Ovaldé pour son roman « Soyez imprudents les enfants ». Et j'en connais d'autres, des imprudents, ce sont les libraires, assez fous pour défendre encore le papier et les livres. Mais Dieu merci qu'ont certainement un téléphone, que disais-je. Allô ?
Bonsoir Clara, j'appelle pour l'apéro.
Bonsoir Charlène, est-ce que vous ne soyez pas Charlène Buzali de la librairie du tramway à Lyon ?
Si, c'est tout à fait moi.
Eh ben voilà, je ne me suis pas trompée. Charlène, quelle est la question la plus farfelue que vous avez entendue dans votre boutique ?
Alors, c'était plutôt une demande un peu atypique qui est venue d'Internet. En fait, c'était un monsieur écossais qui nous a envoyé un email par notre site qui avait vu ma responsable à la grande librairie sur TV5 Monde et qui, en fait, tenait absolument à nous commander, à nous, trois petits classiques. Et donc, on a eu beau lui expliquer que c'était compliqué, que ça lui coûterait plus cher en frais de port, en frais bancaires internationaux, etc. Il n'en démordait pas.
C'était vous et rien d'autre.
Voilà, c'était nous ou rien d'autre.
Mais quel succès !
Voilà, succès phénoménal. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que justement, en termes de moyens de paiement, etc., c'était compliqué. Donc, tout ça a duré quelques semaines pour mettre ça en place. Et du coup, on a démarrer une correspondance, en fait, par email, comme ça. Il me donnait des nouvelles du temps en Écosse, moi de la France, etc.
Voilà, le pied de nez à Amazon, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un livre, Charlène, que vous conseilleriez à Véronique Ovaldé, notre invitée ?
Alors oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai lu récemment et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée, qui s'appelle « Les corbeaux ». C'est un premier roman d'un auteur suédois qui s'appelle Thomas Bannered, qui vient de sortir en français chez Gallimard. Et en fait, là aussi, c'est une histoire de famille, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Klas, qui a 12 ans, et dont le père est fermier dans le sud de la Suède. Sauf que lui, le travail de l'inferme, ça l'intéresse pas du tout. Donc il veut pas du tout apprendre le métier de son père. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les oiseaux. Donc il passe son temps en forêt à observer les oiseaux. Et en fait, son père a des obsessions comme ça par rapport au temps, à la météo qu'il note dans un carnet, etc.
Et le garçon s'en sort, lui, ça le nourrit et il s'en affranchit ?
Voilà, tout à fait. En fait, il va se rendre compte au final que son père peut-être était un peu comme lui, petit garçon, qu'il n'a pas forcément voulu devenir fermier, etc. Et la famille va vivre des difficultés qui vont faire que voilà, le garçon va sortir grandi de tout
voilà,
ça.
Voilà, grandi. En fait, c'est une Athanasia version garçon et version suédois.
Voilà. Voilà. Il y a exactement. Même le côté animal, puisque dans le livre de Véronique, on a les méduses. Et là, bah, c'est les oiseaux qui reviennent constamment.
Merci Charlène de la librairie du tramway à Lyon. Merci de défendre la grande famille des livres que le magazine Page, notre partenaire, met à l'honneur chaque mois. Allez Charlène, vous venez régler vos comptes familiaux avec nous à la Muse-Bouche, on vous attend.
Tout à fait, j'arrive pour la Muse-Bouche alors.
À tout de suite.
À tout de suite.
Véronique Ovaldé, c'est l'heure des inavouables. Oui, parce qu'on peut être écrivain, mère de famille comblée, on n'en est pas moins faillible, avec des goûts culturels un peu honteux. Est-ce qu'il y a une chanson, un film, un acteur catalogué un peu ringard et que vous aimez discrètement ?
Discrètement, oui, mais en effet, c'est une vieille passion. J'ai une vieille passion pour Sylvester Stallone, en fait.
Oui, c'est bienvenue.
Écoutez, c'est très étrange en fait. C'est quand j'étais môme, ce type me faisait un effet extraordinaire. Je pense que c'était à la fois ce qu'il était et puis Rocky, c'était quelque chose de fascinant pour
Rocky.
Moi. Rocky, bien sûr. Voilà, Rocky.
Je
suis un boxeur. J'ai ça dans la peau, Adrian. C'est ça que t'as épousé. Et on se refait pas, tu sais.
Voilà, il y avait un petit côté Christian Estrosi avant l'heure, hein, chez Sylvester Stallone, le côté un peu autoritaire comme ça. Chaque fois que je pense
oui,
à Christian Estrosi, un petit peu.
C'était pas ça, je voyais pas ça. Moi, je voyais l'espèce de fantasme comme ça du type qui se fabrique à force de détermination, de volonté. Vous savez, cette espèce de fantasme américain ou de voilà du type qui vient de la Sicile et je crois voilà, ça me plaisait beaucoup. Ça me.
Vous savez qu'il y a un duel.
Ça me séduisait totalement.
Il y a un duel avec Arnold Schwarzenegger et à votre place a été assise ici Amélie Nothomb qui disait que pour elle rien de mieux au monde n'existait que Arnold Schwarzenegger. Donc ce sera le match Ovaldé Nothomb. Voilà, je veux y assister. C'est aussi la preuve qu'on peut être sexy à 70 ans.
Oui, oui, absolument.
Ça aspire plein de choses.
Et surtout, en 7 ans, on fait refaire totalement le visage, le corps et tout. Mais ça, comme
quoi,
c'est...
Ça se voit à peine.
Ouais,
je vous signale que Hollywood a annoncé un Rambo 5, mais sans Stallone. Hein, on remercie Hollywood qu'on embrasse et qui est capable donc de ce genre de prouesse. Est-ce qu'il y a une musique, Véronique Ovaldé, que vous aimez de la même façon, un peu discrètement ?
Oui, c'est aussi quelque chose, en fait, finalement, c'est quand même lié quand même à l'enfance ou l'adolescence. C'est Bonnie Tyler. Ah. J'adorais Bonnie Tyler. Avec ce côté, le rock lyrique, là, avec les clips de Bonnie Tyler. Mais il faut regarder les clips de Bonnie Tyler.
Oui. Et puis, il faut écouter aussi. Oh là là, 1983. Oui, mais alors si un auditeur allume là maintenant, vous êtes bien sur France Inter.
En 2016.
Et non pas sur RFM. Non, c'est France Inter. Je vais être convoquée par la direction de la musique. C'était Bonnie Tyler. Oui, Bonnie. Bon. On l'a tout dit, on va rendre gloire ici aux années 80. Véronique Ovalde, oui. Vous pareil.
Bah, il va y avoir
gloire au robe portefeuille lamé.
Ah bah oui. Toujours.
Minimum. Gloire au brushing.
Au brushing à Lyon, un peu.
Oui,
là,
deux doigts mouillés dans une prise. Moi, j'appelle ça comme ça. Gloire, quand même. Est-ce qu'il y a un classique, Véronique Ovalde, qui vous tombe des mains?
En fait, c'est pas vraiment qui me tombe des mains. En fait, il s'avère que j'ai lu des classiques assez tardivement, donc je les ai choisis. Donc, ils me tombent moins des mains que pour ceux qui ont été obligés de les lire. Mais il y en a un qui m'a mise très, très en colère quand j'étais adolescente. C'était L'Assommoir de Zola.
Ah mais pourquoi ?
Alors L'Assommoir, c'est parce que justement il y a quelque chose de terrifiant dans L'Assommoir. C'est cette pauvre Gervaise qui, malgré sa gentillesse, malgré son bon cœur, qui est toute faible et qui du coup en fait va finir dans une misère noire, malgré son courage aussi.
Famille pathogène là aussi.
Famille pathogène, milieu pathogène. Et du coup cette fatalité, mais me mettait dans une colère noire. En fait, je ne voulais surtout pas que ce soit possible. Je voulais en fait qu'elle s'en sorte en fait.
Il fallait un sens comme les lettres de l'alphabet.
Voilà.
Certainement pas de hasard et de choses écrites par avance sans sens derrière.
C'était
en fait
insupportable pour moi ça.
Pauvre Émile Zola, on embrasse Émile. Voilà, et il est temps de ranger les amuse-bouches et de passer à table. Dîner familial de copains, d'amoureux, d'ex ou en solo, tout convient tant qu'on a des livres dans sa vie. Celui de Véronique Ovalde, Soyez imprudents les enfants, est paru chez Flammarion. La semaine prochaine, nous recevrons Elisabeth Badinter pour son livre Le pouvoir au féminin, Flammarion également. L'amuse-bouche est une affaire familiale qui tourne bien grâce à Marie-Annick Rimbaud, Laure Grand-Besançon, Thierry Dupin et aujourd'hui en régie Jean-Noël Vélan. La politique et le militantisme sont aussi une grande famille, mais oui, la preuve. Avec Expression Directe tout de suite après nous, à 20h, vous retrouverez D'ici, d'ailleurs, de Zoé Varié. Bonne semaine et vive les familles foutraques, inventives, hors des clous, c'est les meilleurs. À samedi.